Merci aussi pour ce chant. Et j'ai remarqué la mention de la lumière là-dedans. Et il va en être question, justement. Mais avant, on va parler de ténèbres. Vous savez, nous sommes dans cette période avant Noël, qu'on a coutume d'appeler la période de l'Avent. Hein. C'est le premier dimanche de l'Avent, comme a précisé notre frère Roland tout à l'heure. Et pour introduire ce dimanche de l'Avent, je vous invite à une lecture dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, le dernier chapitre de ce livre et les quelques derniers versets de ce livre-là. Alors, j'ai pu remarquer que dans certaines Bibles, le dernier chapitre, c'est le chapitre 3. Dans d'autres, il y a un chapitre 4. Donc, on a divisé le chapitre 3 en deux. Et donc, il y a un chapitre 4 pour certaines Bibles. Mais en tout cas, c'est les trois derniers versets, que vous ayez un chapitre 4 ou pas. Chapitre 3 ou pas. Et dans ma Bible, j'ai chapitre 3, versets 22 à 24. Et je lis. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des descriptions, des prescriptions plutôt, et des ordonnances. Voici moi-même. Je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Jusque-là, notre lecture. Dernier mot de l'Ancien Testament. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. La période de l'Avent qui commence cette semaine, commence dans les ténèbres. Entrer dans cette période de fête de Noël, bibliquement, c'est commencé dans les ténèbres. C'est commencé avec le silence assourdissant de Dieu. Dehors, dans le monde, l'Église, un petit peu tout le monde, nous sommes dans l'effervescence. On commence petit à petit à entendre des chants de Noël. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à l'étude, dans les Antilles, bien avant décembre, fin octobre, début novembre, on a déjà des chants de Noël, en tout cas à la Dominique, c'est comme ça. On a des chants de Noël et partout, surtout dans les pays anglophones, on a cette effervescence autour de la période de Noël, en Angleterre, aux États-Unis, aux Antilles. Et dans l'Église, nous entrons dans cette période d'attente, de l'avant, non pas dans la lumière, mais aussi dans les ténèbres. Nous nous confrontons à nos ténèbres. Et pourtant, ici, dans la parole de Dieu, il est question de lumière. Mais l'avant nous conduit à considérer nos ténèbres à nous, afin que nous puissions voir de façon plus profonde et d'apprécier de façon plus profonde cette lumière qui nous est proposée. Si vous deviez lire les dernières pages d'un roman, admettons, un grand livre, vous ne pourriez pas l'apprécier à sa juste valeur si vous ne savez pas ce qui a précédé dans les premières pages du livre. Et la plupart des histoires sont constituées d'intrigues, de tensions qu'il est intéressant de connaître si nous voulons bien apprécier l'histoire, le roman en lui-même. Le prophète Ésaïe dit ceci: « Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. » Chapitre 64 de son livre. « Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ainsi, nous as-tu caché ta face et nous laisseras-tu périr par l'effet de nos crimes ?» Ésaïe dit: ceux qui marchent dans les ténèbres. Et ces ténèbres dont il parle, c'est cette durée dont je parlais en étude. 400 années de silence. Parce qu'il y a 400 ans entre les paroles de Malachie que nous venons de lire et les premières paroles du Nouveau Testament où l'ange Gabriel vient briser ce silence de Dieu avec un message, une bonne nouvelle. Et tout ce que peut dire le peuple, c'est « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et l'autre parole, « Nous as-tu abandonnés ?» Au premier siècle, ce peuple a connu l'oppression sous domination romaine, conduit par des responsables, vous le savez, hein, cruels, avec des personnes brisées. Et on le voit dans le parcours de Jésus. Des femmes, des hommes qui essaient de relever. Des personnes qui ont vécu des temps difficiles, des préjudices, des conflits religieux. Un désir de justice où la justice est absente. Un désir de libération qui ne vient pas. Notre monde aujourd'hui vit les mêmes choses. N'est-ce pas? Au journal télévisé, ces jours-ci, je suis fan de news, à petite dose quand même, histoire de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais nous entendons ces tensions qui existent dans les pays. Nous entendons ces guerres qui font rage. Nous entendons ces scandales politiques. Nous sommes témoins de l'indifférence des uns, du racisme et de l'antisémitisme des autres. Les menaces terroristes islamiques qui guettent jour après jour. Nous sommes témoins de tout ça. Mais aussi pénible que cela puisse être, c'est un terreau comme cela qui est favorable à l'avant. Un terreau de ténèbres que Jésus vient briser par sa lumière, par sa venue. Et comprendre cela, c'est avoir une compréhension plus profonde de notre condition sans Dieu, par exemple. Un peuple qui vit 400 ans sans entendre mot de leur Dieu. Alors certains peuvent se servir de la période de Noël pour échapper à leurs problèmes. On cherche une tranche de vie paisible. Période festive, de gaieté, un petit peu de bonne humeur, pour ensuite retrouver nos mêmes problèmes après le mois de décembre et passer toute une année, de janvier à novembre, dans la tristesse et dans les ténèbres encore. Si Noël doit être quelque chose, ce n'est certainement pas un échappatoire. Noël, c'est Dieu qui descend. Noël, c'est Dieu qui intervient dans nos situations. Noël, c'est Dieu qui pénètre au travers de ces ténèbres que nous vivons. Noël, c'est Dieu qui entre dans le monde sous le poids de nos péchés. Et entrer dans cette période de Noël de façon lucide, c'est d'être conscient des ténèbres qui règnent autour. C'est d'entendre à nouveau les paroles d'Ésaïe qui disent « Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons depuis longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Oui, mais depuis longtemps. Il y a des questions auxquelles nous devons penser, des questions que nous devons nous poser dans le courant de nos vies, dans le cheminement de vie de chacun, des questions qui sont à propos, tandis que s'ouvre cette période de l'Avent. Pourquoi autant de mauvaises choses arrivent? Où est Dieu dans tout ça? Que fait-il? Vous avez sûrement dû entendre cette question. Si un Dieu existe, pourquoi la guerre? Pourquoi les hommes se déchirent? Pourquoi ne l'empêche-t-il pas, ce Dieu-là? Si Jésus est venu tout changer, pourquoi les choses restent inchangées? Dieu nous a-t-il abandonnés? Dieu est-il réel, finalement? Et les paroles que nous disons venir de lui sont-elles vraies? Et une belle question, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Vous savez, les évangiles n'ont pas été écrits simplement pour avoir une trace des agissements de Dieu, de Jésus plutôt, ou de ses paroles. Elles ont aussi été écrites justement pour répondre à ces questions que je viens de poser. L'Église primitive vivait des périodes de persécution, je le disais tout à l'heure, et Jésus est venu. Il est parti, le peuple est resté sous domination romaine. Et ils étaient comme nous en droit de se poser les mêmes questions. Si Jésus est venu, où est l'amélioration? Les Romains sont toujours là, nous sommes toujours sous pression. Où est la promesse de sa venue? Car depuis que nos pères se sont endormis, les choses se poursuivent de la même façon, encore et encore, depuis le début de la création, en tout cas depuis que l'homme a péché. Où est le roi des rois? Et quand est-ce qu'il revient, ce roi qui est parti? Pourquoi tarde-t-il autant? Pourquoi ne répare-t-il pas tout d'un coup? Ça nous arrangerait quand même. Et dans ces questionnements des premiers chrétiens, des chrétiens du premier siècle, ils se sont rappelés des événements qui entouraient sa venue, des prophéties qui ont été accomplies, des personnes qui marchaient dans les ténèbres et qui ont ensuite vu la lumière. Les dernières paroles de Malachie ont été, et c'est Dieu qui parle, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mais il ne le fait pas. Vous avez remarqué, hein? Il ne l'a pas fait. Bien au contraire, il a porté leurs iniquités. Il a porté leurs péchés dans lesquels ils étaient bien longtemps, très longtemps. L'Église primitive encore s'est rappelée des paraboles que Jésus proclamait, comme celle du propriétaire qui est parti dans un pays loin et qui disait à ses serviteurs, « Veillez, veillez, attendez mon retour, soyez vigilants. » Alors nous posons toutes ces questions. Et d'autres encore, hein, que je n'ai pas mentionnées. Nous disons à Dieu, donne-nous des réponses qui puissent nous contenter. Donne-nous des réponses qui ont du sens pour nous. Vous avez dû le noter, je n'ai pas donné de réponse, moi. Parce que Jésus non plus n'en donne pas, hein, forcément. Il ne répond pas forcément à nos pourquoi. On l'a vu avec Job. Bien au contraire, il a pris son temps pour dire toutes ses œuvres. Il a même demandé à Job, ben, fais entendre, si tu peux. La période de l'Avent ne concerne pas uniquement la première venue de Jésus. On a dit que c'est une période d'attente. Bien sûr, ça a concerné sa première venue, mais pas que. Il est aussi question de sa seconde venue. Nous sommes en train d'attendre la prochaine venue du Seigneur. C'est notre espérance. C'est notre espoir. Et donc, une compréhension biblique de Noël, ce n'est pas quelque chose pour laquelle, par exemple, Israël était préparé. Et même, lors de la première venue de Jésus, Marie et Joseph n'étaient même pas préparés à cela. Oui, l'ange a annoncé la venue de Jésus, mais figurez-vous qu'ils sont partis en voyage à cause d'un appel, un recensement. Ils arrivent dans un petit village, boum, accouchement dans une étable. Ça, c'est pas de la préparation, ça. Quand on est préparé, on va à l'hôpital, tranquillement, on accouche. Bon, il n'y avait pas des hôpitaux comme les nôtres. Mais même eux n'étaient pas préparés à recevoir le bébé. Et le petit, il prend naissance dans une étable entourée d'animaux, avec des bergers qui viennent le visiter, puis des anges qui chantent. Malachie 4:1 commence ainsi. Car voici, il vient. Ensuite, plus rien. C'est le silence. 400 ans de silence. Pas de lumière pendant plusieurs générations. Rappelez-vous, nous avons dit que la lumière, c'est la parole de Dieu. Pas de parole de Dieu pendant 400 ans. J'ai apprécié la petite vidéo de dimanche dernier que nous a présentée Olivier. Ces personnes qui, recevant la Bible, étaient dans l'émotion, dans l'émoi. Nous l'avons, cette parole, aujourd'hui. Nous y avons accès pleinement. Et parfois, des semaines passent, nous ne la consultons pas. 400 ans de silence, c'est long. C'est long pour un Dieu qui dit avoir un peuple. Mais pourtant, un jour, soudainement, par-delà un autre monde, je ne sais où, un ange apparaît. Et il dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle aura un fils, et on l'appellera Emmanuel. Dieu sera avec vous. Et c'est ce qui a été. Après une longue période de silence de 400 ans et d'inaction de Dieu, il intervient finalement dans la vie des hommes. Le silence est brisé, les ténèbres sont transpercées. Alors il peut nous sembler que la venue de Jésus n'ait rien changé. En tout cas, pas grand-chose, au vu de l'ensemble, lorsque nous regardons le monde, lorsque nous considérons le fonctionnement de notre monde. Il peut nous sembler que l'Église primitive et son action n'a pas eu grand effet. Bien sûr, il y a eu une évangélisation explosive au début, tout le travail de Paul et des apôtres, des conversions massives. Et on aurait pu s'attendre à un bouleversement du monde entier, ce qu'il y a eu au premier moment. Mais les persécutions ont continué. Il y a toujours eu des gens mauvais. Même la mort de Jésus paraissait comme un échec à certains. N'est-ce pas? Le Dieu Sauveur, il vient, il meurt. Et il dit être le roi des rois, un messie sans pouvoir. Quel type de messie est-ce? L'Avent, c'est cette période d'entre-deux, entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, entre les dernières paroles de Malachi et les paroles de l'ange Gabriel. C'est aussi le temps entre sa première venue et sa seconde venue. Je l'ai dit, l'avant commence dans les ténèbres. L'avant pose les jalons pour tout le plan du salut de Dieu. Genèse 1, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit dans les ténèbres. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ensuite, il sépara la lumière des ténèbres. Et Jean reprend un petit peu cette idée dans son évangile au chapitre 1. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Nous entrons dans une saison de l'Avent aujourd'hui. Non pas il y a 3 mois, non pas, ne considérons pas l'aspect commercial de cette période, hein, mais le cadre biblique qui nous prépare au retour de notre Seigneur. C'est ça que nous voulons viser. L'Avent, c'est une période de préparation qui prépare l'arrivée de Noël, mais pour bien comprendre la raison d'être de Noël, il faut commencer par les ténèbres. Pour bien apprécier la lumière, il faut avoir vécu ténèbres. Pour bien apprécier le salut de Dieu, il faut être pécheur. C'est pour ça qu'il nous est dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a un chant que les gens, les anges ne peuvent pas chanter. Nous seuls pouvons chanter ça. Parce que nous avons connu les ténèbres. Nous devons comprendre que nous vivons dans un monde qui ne peut pas se sauver lui-même déjà, que dans le silence de Dieu, nous sommes perdus et abandonnés à nous-mêmes, sans espérance, s'il n'y a pas de Dieu qui se manifeste, s'il n'y a pas d'incarnation de ce Dieu-là, s'il n'y a pas de gloire manifestée. Mais la période de l'Avent nous rappelle que Dieu s'est frayé un chemin dans les ténèbres, au moment propice et de la façon dont il a choisi, de façon humble, il est venu. Pas en grande pompe, pas avec des trompettes sonnant son arrivée, mais humblement, discrètement, dans une étable. Nous avons tous eu des périodes de ténèbres dans nos vies. Nous avons des périodes où il nous semblait que Dieu était loin, loin de nous. Mais après l'avoir accepté dans nos vies, il a pu nous sembler que Dieu nous avait tourné le dos. Et malgré nos pleurs, malgré nos supplications, Dieu était aux abonnés absents. Des moments terribles. Et nous qui avons pris l'habitude de lire les psaumes, merci à Olivier, David témoignait des mêmes choses. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus qui reprend la même parole à la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas pire pour le chrétien de se sentir abandonné du Père. Pourtant, ce n'est pas de sa faute. Il n'a rien fait pour. Tout simplement parce que nous sommes dans nos ténèbres. Et Noël, c'est cette période où nous nous réjouissons que le Dieu de gloire a pu percer cette épaisse couche de ténèbres et faire briller sa lumière. Laissez-moi vous dire que Dieu a des façons d'intervenir dans nos vies qui peuvent nous bousculer, inattendues, parfois des manières que nous ne soupçonnons pas, qui ne sont pas nos manières, bien souvent. Mais il nous faut parfois être confrontés à nos propres défaillances, par exemple, à nos échecs, à nos péchés, jusqu'à ce que Dieu nous fasse voir sa lumière. Et je le redis, pour comprendre la lumière, il faut avoir vécu les ténèbres. L'avant commence dans les ténèbres. Mais lorsque Dieu intervient, tout change. Et nous pouvons en être témoins. Isaïe 60, versets 1 à 2, dit ceci, et nous terminerons là-dessus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Béni soit son nom.